à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour, je suis très content d'être là car j'attends vraiment une version longue de Pokémon avec tous les Pokémon faits par le tyran. C'est-à-dire les 850 ou 900, je sais pas combien.
Oui, bien sûr, c'est ça. Va te faire voir. J'ai déjà donné de ma personne, ou alors si tu m'accompagnes.
Jamais de la vie.
Voilà, c'est bien ce que je pensais. De Morgan.
Salut tout le monde.
De Ben.
Salut à tous.
Et de Dwayne.
Yello.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, je vous parlerai de Catherine, on enchaînera ensuite sur Alien Blackout, nous évoquerons Paradox, Bungie, Mike Morhaime, Amazon, Assassin's Creed qui va rajouter des possibilités dans la personnalisation du jeu, et enfin nous terminerons par notre jeu du moment, un jeu ma foi qui est magnifique, je pense que en préambule on s'accordera sur ça Dwayne, et ce jeu c'est Gris. Allez, c'est parti. On va commencer avec le jeu qui est débarqué de nulle part cette semaine sur PC, c'est Catherine. Sega, ils ont dit bon bah voilà, ça y est, on a sorti Catherine sur PC. Bon, c'est pas la version full body, mais voilà, on l'a sorti. Merci, au revoir. Voilà. Bon, ben ok, pourquoi pas. Il y a juste un truc que je comprends pas, Sega. C'est juste une remarque comme ça. Hein. Pourquoi vous avez pas, je sais pas moi, il y a la version full body qui va sortir bientôt là. Ben, sorti la version full body, en fait.
Mais c'est quoi la différence entre la version classique et la version full body? Qu'est-ce qu'elle rajoute en plus par rapport au jeu de base?
Bah, déjà, un nouveau personnage, enfin, une nouvelle tentatrice, voilà. Donc, ça rajoute un nouvel arc narratif, on va dire. Des nouveaux niveaux, etc. Enfin, il y a plein de choses, quoi, qui vont être ajoutées du gameplay, quoi, tout simplement. Donc, je trouve ça un peu bizarre de sortir le jeu de base sur PC... Alors que la version enhanced, on va dire, va bientôt sortir sur les consoles nouvelle génération, c'est...
Oui, c'est un peu gonflé. Hein.
Après, bon, le jeu, il est pas vendu plein tarif, hein, donc à la limite, pourquoi pas. Mais encore une fois, c'est curieux. Alors, on sait qu'il y a des possibilités d'ajouter des DLC, ce genre de choses, donc est-ce que ça arrivera? On verra. Pour le moment, ça a l'air de bien se vendre. En tout cas, c'est dans le top des ventes de Steam. Il y a des reviews plutôt positives. Donc bon, même si apparemment le portage n'est pas non plus le meilleur que Sega nous ait fait, hein. Donc bon, why not, why not. Ah oui, il y a aussi Tales of Vesperia qui est sorti en édition complète, qui cartonne sur Steam aussi, voilà.
Et j'ai reçu un mail d'Altus hein, pour te répondre. Ils m'ont dit, on est prêt à mettre la version enhanced, si vous êtes prêt à payer avec votre portefeuille, monsieur Tyran.
Bah écoute, si au final ça me revient au même tarif que la version full body plein tarif, moi je veux bien. Hein. Par contre, si au final ça revient à payer un jeu plus le prix de full body, bon, là voilà, ça sera pas la même histoire quoi. Mais écoute, on peut discuter, voilà. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait à l'époque, hein, évidemment, je vous le recommande. C'est un excellent puzzle game avec une ambiance fabuleuse et qui pose plein de thématiques, ma foi, fort intéressantes.
Peut-être pas pour les plus jeunes par contre.
Alors pas pour les plus jeunes non, faut pas exagérer non plus. Oui voilà. Mais honnêtement un ado, enfin voilà, il peut largement y jouer. Il y a pas de.
Bah c'est pas un jeu voilà. Très sulfureux quoi. C'est juste que il y a plein de thématiques qui sont abordées et c'est des thématiques liées à la sexualité et tout. Mais c'est ouais. Pas du hentai.
Honnêtement j'ai vu des animes nettement ouais. Plus borderline que ce qu'on voit dans Catherine. Enfin je veux dire Catherine, tu vois jamais un bout de sein ou quoi que ce soit. Enfin les plans de caméra sont toujours très pudiques. Enfin,
pour moi même, tu vois, c'est plus dangereux de laisser un gamin jouer à un Call of Duty qu'à Catherine. Tu vois. Donc
ouais c'est sûr. Bon, par contre, à mon avis, un gamin, tu vois, il se fera chier parce que, en
oui,
vrai, Catherine, c'est vraiment un jeu mature, quoi. C'est-à-dire qu'il aborde des questions telles que l'engagement, le mariage, etc. Ça, c'est des choses qui concernent plus des trentenaires, tu vois, qu'un gamin de 15 ans. Hein. Voilà.
Et puis, en plus, ça, c'est un puzzle game, pas sûr que ça soit le genre qui soit le plus à la mode. Hein.
C'est ça. Surtout un puzzle game hardcore.
C'est ça.
Il faut bien le dire. Bon, on va enchaîner sur l'incompréhension de la semaine. Enfin, moi, à un moment donné, je sais pas. On a Electronic Arts qui s'est fait défoncer à l'E3 pour avoir présenté un Command & Conquer sur mobile. On a Blizzard qui s'est fait défoncer à la BlizzCon pour avoir présenté un Diablo sur mobile. En te faisant croire, tu sais, que ça va être un jeu majeur, etc. Allez-y les gamers, on vous présente le prochain jeu de la franchise, vite, prenez tous votre téléphone. Enfin, ça ne marche pas. Vous voyez, on ne peut pas vendre un jeu sur téléphone comme ça à des joueurs standards. D'ailleurs, c'est bien pour ça que Bethesda a été un peu plus intelligent que les autres et qu'en même temps qu'ils ont annoncé Elder Scrolls Blade, ils ont teasé le prochain Elder Scrolls majeur parce qu'ils savaient très bien que s'ils mettaient juste Elder Scrolls Blade, alors que bon, les fans d'Elder Scrolls, ils attendent plutôt un jeu majeur, ça aurait rué dans les brancards. Et ils avaient bien raison. Donc, moi, je ne comprends pas que, du coup, on se retrouve avec un Alien Blackout qui a fait un teaser de ouf pendant toute la semaine, qui a teasé en plus le personnage d'Amanda Ripley, qui est le personnage emblématique d'Alien Isolation, hein, et qui t'annonce un jeu sur mobile, quoi. Et donc, est arrivé ce qui devait arriver, hein. Le trailer s'est fait downvote comme un fou sur YouTube. Les fans sont pas contents. Enfin, voilà. Est-ce que vous allez comprendre, putain de bordel de merde, que un jeu sur mobile, de surcroît, qui sera sûrement free-to-play, j'imagine, tu le teases pas comme un jeu triple A. Tu vas forcément avoir des emmerdes à la fin parce que le public qui regarde ce genre de teaser, ce n'est pas le public qui va télécharger ton jeu sur mobile. C'est si difficile que ça à comprendre. Sérieusement. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, messieurs.
Non, je pense que t'as tout dit, là.
Voilà. Bon, par contre, si vous avez un alien majeur annoncé, ce serait sympa. Merci.
N'hésitez pas, hein, surtout.
Surtout, voilà. Refaites-nous signe, on sera là. Bon, Ben.
Ouais.
Tu vas maintenant nous parler de Paradox, qui a fait un petit rachat, n'est-ce pas ?
Eh oui, donc Paradox, qui est notamment connu pour son City Skyline récemment, qui a très bien marché, il me semble.
Ouais, qui est surtout connu pour sa politique de DLC.
Ouais.
À gogo, n'est-ce pas ?
Aussi. Qui a racheté Prison Architect. Donc Prison Architect, un petit jeu à l'origine indé. Et, et là, donc, qui file chez Paradox. C'est un jeu, je crois, qui a très bien marché aussi, Prison Architect, oui. Qui a eu des récompenses. Enfin, c'était vraiment un bon jeu.
Un jeu emblématique de l'accès anticipé.
Ouais.
Aussi.
Ah ouais, clairement. Hein.
Et donc, voilà, on apprend que Paradox a fait son rachat et qu'il compte bien continuer à travailler sur cette licence.
Bon, par contre, on est d'accord, ils n'ont pas racheté le studio. Hein. C'est juste...
Non, ils ont racheté le jeu, ouais.
Ouais.
Voilà. Alors... On pourrait dire que c'est une bonne nouvelle pour le studio, parce que j'imagine qu'ils ont eu un beau petit pactole
certainement, oui.
Pour qu'ils lâchent la licence. Par contre, moi, je sais pas si c'est une bonne idée sur le long terme. Je m'explique. Je peux comprendre, après 10 ans, parce que ça fait 10 ans, il me semble, hein,
oui.
Que ce jeu est sorti, qu'on ait envie de passer à autre chose. Hein. D'un point de vue créatif, voilà quoi. Je pense que le créateur de Stardew Valley, il sera un peu dans la même situation, si ce n'est déjà le cas, hein, parce que au bout d'un moment, tu sais, quand tu bosses toujours sur le même jeu, t'as envie d'explorer de nouveaux horizons. Je peux tout à fait le comprendre.
Mais même pas pour Stardew Valley. Du coup, il a annoncé récemment qu'il mettait en pause un autre jeu pour se consacrer sur Stardew Valley. Tu vois. Donc, mais bon.
Mec, on a pas marre.
Ouais.
Pour le moment, voilà. Donc,
oui, voilà, bien sûr.
Forcément, au bout d'un moment, t'as envie
de
passer à autre chose. C'est normal.
Et l'assitude,
c'est naturel.
Ouais.
On peut comprendre que d'un point de vue créatif,
clairement,
et t'as envie de te renouveler, quoi. Le truc, c'est que c'est quand même une source de cash en continu, si tu veux. Et pourquoi ne pas mettre une équipe dans ton studio qui serait dédiée à ce jeu-là, qui continuerait de faire des mises à jour, etc. Parce que finalement, Prison Architect, c'est un peu un jeu à service, tu vois. Enfin, voilà, il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement. Il y a toujours des gens qui rachètent régulièrement le jeu parce que le bouche à oreille fait que, voilà, sur ce genre de jeu, t'as des nouveaux joueurs qui arrivent, etc., qui découvrent le jeu, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, voilà, enfin, tu mets une équipe qui est dédiée à ça, et toi, tu te consacres à tes nouveaux horizons. Et du coup, t'as toujours ta source de cash qui arrive. Et en même temps, tu continues à bosser sur ton nouveau projet. Voilà. J'ai tendance à trouver que c'est un peu une vue à court terme. Mais bon.
Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Thierry. J'ai pas trop compris le move d'Introversion Software, donc qui est le développeur.
Surtout quand on sait la difficulté d'établir une licence, quoi.
C'est ça. Bon, faut bien savoir que Paradox et Introversion, ils se connaissent, hein, parce que Paradox a édité Prison Architect sur sa sortie console, me semble-t-il. Donc...
Et mobile aussi, je crois, il me semble.
Ouais, les deux boîtes se connaissent bien. Introversion n'a pas été forcé, évidemment, à faire ça. Par contre, je te rejoins sur le côté un peu court-termiste en termes de vision sur ce move-là, parce que On sait pas de quoi demain sera fait, et encore moins pour un studio de développement de jeux vidéo. Est-ce que au final ils vont pas s'en mordre les doigts? J'espère pas pour eux. Après, je suppose que c'est aussi une décision qui a été faite histoire de dire bon bah voilà, cette page de notre histoire elle est tournée. On se dirige vers autre chose, pourquoi pas, mais j'espère juste qu'ils vont pas s'en mordre les doigts, quoi.
Bon, rien à juger des messieurs?
Non.
On va maintenant parler de The Big Fucking News de la semaine, Mordren. Ouais. Ça a un peu pris tout le monde de court cette semaine, on s'y attendait, mais alors... vraiment pas. On se doutait que bon, il y avait de l'électricité dans l'air, on va dire, mais à ce point peut-être pas. Donc c'est Bungie qui a décidé de mettre un terme à son partenariat avec Activision et de partir avec la licence Destiny.
Mmh. Ouais, c'est un truc qui nous est tombé dessus. Activision Blizzard et Bungie ont décidé donc de divorcer. Et là où c'est particulièrement notable, c'est que c'est pas du tout Activision Blizzard qui garde la licence Destiny, et c'est Bungie qui part avec. Bungie pourra éditer lui-même son jeu. On se rappelle aussi que récemment, Bungie a fait un tour d'investissement de 100 millions de dollars de la part de NetEase, dont on avait déjà parlé à l'époque où on avait évoqué Diablo sur mobile, puisque c'est les mêmes qui s'en occupent. Donc voilà, on sait pas exactement de quoi sera fait demain hein, pour Destiny et pour Bungie, et en tout cas voilà, c'est avec ces thunes là qu'ils vont avancer a priori. On sait également que Bungie travaille sur une autre licence, et c'est dans ce cadre là que NetEase avait investi dans le studio. Donc il est probable que NetEase n'ait pas vraiment la main sur le futur de Destiny. En revanche, ce qu'on sait maintenant, c'est que chez Activision Blizzard, c'est pas la joie, parce que lié à ça, on va se rappeler également qu'il y a quelques petits soucis en termes de leadership dans l'entreprise, puisque Mike Morhaime, on savait que bon, il avait quitté son siège de PDG du groupe
de Blizzard, attention,
de Blizzard, pardon, mais qui devait garder un rôle de consultant. Et en fait, son rôle de consultant, on a appris récemment qu'il se terminait au 7 avril 2019, donc c'est pour dans pas longtemps du tout.
Bah à la base ça a été un peu fait pour dire ok bon, vous voyez, ça c'est le CEO historique de Blizzard, c'est le fondateur, etc. Mais rassurez-vous, il sera toujours là pour nous donner des conseils, etc.
C'est ça.
Et même pas 3 mois après, bah en fait je me casse. Donc bon, voilà quoi.
C'est ça. Bon, alors c'est quelque chose d'assez classique hein, dans les entreprises, quand un PDG ou qu'il y a une période de transition, l'ancien PDG il reste pour faire bonne figure, mais il s'en va très vite après. Donc là c'est exactement ce qui est en train de se passer chez Blizzard. Et donc pour rappel, sa succession c'est Alan Brack, l'exécutif producteur historique de World of Warcraft, qui a pris sa place en tant que PDG. Mais au-dessus, chez Activision Blizzard, il y a quand même des soucis, notamment le directeur administratif et financier, qui s'appelle Spencer Newman, qui a quitté le groupe, mais aussi la directrice administrative et financière de Blizzard, Amrita Ahuja. Il y a une espèce de jeu de chaise musicale qui est en train de se passer chez Activision Blizzard et chez Blizzard, qui pue un peu du cul, pour être tout à fait honnête.
Dans le même temps, il y a le cours de l'action de Blizzard qui est en chute libre depuis quelques mois.
Ouais.
Voilà, donc pourquoi on voulait parler de ça? Parce que la conjonction de ces deux événements est fait qu'on se demande s'ils sont pas en train de perdre la boule chez Activision Blizzard en vrai, quoi. Parce que d'un côté quand même, il faut rappeler une chose. Il reste quoi, en fait, chez Activision? Là, je parle vraiment de la partie Activision, en fait, hein, pas de la partie Blizzard. Il reste Call of, ok, ouais. Spyro et Crash Bandicoot.
C'est ça.
Sérieusement, chez Activision, il reste quoi, en fait, à part Call of? Sérieusement.
Et ben, le futur Sekiro, mais qui n'est qu'une édition.
Mais qui surtout est un projet de prestige. Enfin, c'est pas avec ça qu'ils vont mettre toujours plus d'argent dans la caisse, parce qu'on sait bien que l'objectif de ces grosses boîtes, c'est pas d'être rentable, c'est de faire le maximum de profit avec le minimum d'efforts. Sauf que à force de faire cette politique-là, bah qu'est-ce qui se passe? Tu finis par virer une boîte comme Bungie, tu les laisses partir avec la licence et tu te retrouves avec quoi? Avec Call of. Point. Donc qu'est-ce qui va se passer là dans les mois qui viennent? Moi, ce qui me fait peur, c'est que, à côté de ça, on a une boîte qui est Blizzard, donc, je rappelle que c'est une holding, hein, à la base. T'as Activision d'un côté, Blizzard de l'autre, il y a une holding au-dessus, Et moi, j'ai très peur qu'au bout d'un moment, en fait, on commence à mettre une pression de ouf sur Blizzard, parce que qui est-ce qui rapporte des pépettes à la maison en ce moment? C'est pas Activision, hein, c'est Blizzard. Et du coup, on va très certainement se retrouver avec des modèles économiques de plus en plus dégueulasses sur les productions Blizzard. La conjonction de ça avec leur volonté de mettre l'accent sur le mobile, on a vu ce que ça donnait à la BlizzCon, c'était pas brillant. Mais à mon avis, vu ce qui se passe, de toute façon, ils pourront pas faire machine arrière. Parce que de toute façon, voilà, il faut absolument faire le maximum de pognon possible. Et Blizzard sur mobile, c'est la poule aux oeufs rêvée pour Activision. Donc moi, pour ce qui est de Blizzard... ça sent pas bon. Dwayne.
En gros, c'est comme un espèce de lion blessé, quoi, Activision, là. Sachant que là, c'est en février, en plus, qu'ils vont annoncer leur plan. Il va y avoir les bilans, etc. Donc moi, franchement, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire et je pense que ça va être très, très sale. Et sinon, côté Bungie, enfin, je suis curieux, mais plus positivement. C'est-à-dire que j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Après, ça va être très compliqué. On va dire l'issue la plus probable, c'est qu'ils trouvent un nouveau deal, tout simplement. Donc là, après, ce sera à voir. Et ensuite, s'ils arrivent, par contre, à rester indépendants et à eux-mêmes se charger de l'édition, etc., ça m'intéresse vraiment de voir comment ils vont faire ça sans trouver de deal. Sachant qu'en plus, il y a quelque chose, enfin, des zones d'ombre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils avaient signé pour 10 ans... Ils avaient dit effectivement qu'ils gardaient Destiny, donc c'était à la base. Et surtout, ils devaient livrer 4 jeux. Donc ça, ce sera à voir aussi.
Ouais, parce comment, que qu'ils aient gardé la licence, ça c'était prévu de base. Mais il y avait quand même plein de conditions dans le contrat pour s'assurer que ouais, ok, vous gardez la licence, mais faut que ça nous rapporte des pépettes, tu vois. Là, franchement, c'est un mystère, quoi. ATH.
Alors, il y a plusieurs choses dans cette affaire. Tout d'abord, faut savoir qu'il y a beaucoup de têtes pensantes qui ont quitté Bungie. On peut penser à Martin O'Donnell lors de l'annonce de Destiny à l'E3. Martin O'Donnell avait composé une musique spécialement pour le trailer et cette musique elle a été changée par Activision. Martin O'Donnell a poussé un coup de gueule sur Twitter en 2013 et il s'est fait licencier en 2014 sans raison valable.
Ouais, ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. Hein,
c'est ça. Et puis après, il faut aussi voir ce qu'a donné le deal entre Activision et Bungie, c'est-à-dire que ça a donné Destiny. Au début, on nous vendait comme la super production qui allait détruire le game. On avait eu que quelques screenshots et on nous annonçait déjà 500 millions de budget marketing. Après, il y a Destiny qui est sorti et ça a été un peu la douche froide pour les joueurs, c'est-à-dire que c'est un jeu qui était apparemment assez bon dans ses mécaniques de FPS, mais qui manquait de contenu endgame. Et c'est un petit peu embêtant pour un jeu multijoueur. Et Destiny 2 a fait la même erreur, c'est-à-dire en fait ils sortent un jeu et le jeu est tronqué par les DLC, c'est-à-dire il faut que tu achètes les DLC pour pouvoir déjà jouer avec tout le monde.
Et puis surtout les microtransactions quoi. Enfin,
ouais. Il y a plein de choses qui ont entaché un peu l'image de Destiny, et notamment ces choses-là quoi. Et moi je suis un petit peu triste pour Activision parce que à une époque Activision ils possédaient quand même pas mal de licences, ils avaient des licences comme True Crime, voilà, ils éditaient pas mal de jeux. Aujourd'hui ils ont rien, c'est plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils ont voulu faire du Call of Duty pendant 10 ans. Certes, c'est un jeu qui a très bien marché, qui a ramené beaucoup d'argent, mais voilà, aujourd'hui, le résultat, il est là. Ça me fait un peu peur de voir ce qu'ils vont faire avec Sekiro, par exemple. Je sais pas s'ils vont inclure des microtransactions dans leur jeu, enfin, il faudrait voir ça à la sortie, mais ça laisse poser déjà pas mal de questions. Et puis surtout, là, je vais partir dans une hypothèse, mais totale. Est-ce que Sony serait prêt à racheter Bungie? C'est-à-dire que là, Sony serait prêt à faire un pied de nez à Microsoft, parce que là, on sait que Microsoft, ils s'arment pour la prochaine génération. Ils ont racheté pas mal de studios, dont Obsidian. La génération qui va arriver... On sent que Microsoft, il veut être fort. Du coup, est-ce que Sony, il irait pas récupérer les anciens bébés de chez Microsoft pour développer une exclusivité console sur leur PlayStation et une exclusivité surtout multijoueur? Parce que Sony sont très forts pour faire des jeux solo de qualité, mais il leur manque une grosse écurie...
Le jeu service, c'est vraiment pas leur domaine.
C'est
hein,
ça.
Très clairement.
Et alors que, par exemple, avant, on aurait pu penser que ça soit Killzone, qui était un peu le faire-valoir du FPS Sony et multijoueur, mais c'est pas une licence qui a très bien marché en termes de contenu multijoueur. Et puis même, Guerilla aujourd'hui est passé sur Horizon.
Et on en est très content, hein.
Oui,
très sincèrement.
Parce que Killzone, c'est pas une licence, franchement, qui est chère à mon cœur. Mais donc voilà. Espérons que Bungie puisse retomber dans leurs pattes. Moi, je préférais qu'ils restent indépendants, qu'ils puissent développer des jeux dans leur coin et quitte à laisser Destiny partir sur une nouvelle licence avec, je sais pas, moi, pourquoi pas des investissements qui arriveraient de l'extérieur pour pouvoir continuer à survivre. Mais voilà, j'aimerais pas qu'ils soient forcément chez Sony. Mais en tout cas, je me dis, est-ce que Sony, il serait pas prêt à tenter le tout pour le tout? Pour la prochaine génération, quoi.
Oh, bah, au pire, ils seront rachetés par Tencent. Tout le monde se fait racheter la part en sortant en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin voilà. Juste une remarque par rapport à Bungie. Parce que bon, dans cette affaire, je sais que Bungie a toujours eu le beau rôle, n'est-ce pas ? Mais en vrai, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé durant le développement de Destiny, ce qui s'est passé durant le développement de Destiny 2. Maintenant, Bungie, vous n'avez plus le paratonnerre Activision au-dessus de votre gueule, vous voyez ? Donc, j'espère vraiment que vous savez ce que vous faites, notamment pour tout ce qui concerne les microtransactions, notamment pour tout ce qui concerne le suivi du jeu, parce que moi, il me semble de mémoire que j'avais lu des articles qui disaient qu'à la base, s'il y avait aussi peu de contenu pour Destiny 1, c'était aussi un peu de votre faute, et que vous étiez allé voir Activision pour leur dire « En fait, on peut pas faire des microtransactions et voilà, on laisse couler. » Faudra que je retrouve l'article, mais il me semble que j'avais vu ça à l'époque. Bon, après, c'est toujours les bruits de couloir, etc. Donc, en vrai, on sait pas, mais voilà. Donc, j'espère pour vous que Activision était effectivement en grande partie responsable de votre situation, parce que si c'est pas le cas, ça va pas être très joyeux pour vous dans les mois qui viennent.
Mais c'est sûr que nous, on tape aujourd'hui beaucoup sur Activision, mais c'est aussi parce qu'Activision a un passif derrière. C'est un peu comme Electronic Arts. C'est pour ça qu'on tape dessus aujourd'hui. Après, comme tu l'as dit, on sait pas ce qui s'est passé, mais on va dire que la théorie la plus probable, ça serait que Activision ne soit pas satisfait pleinement des ventes de Destiny. Et puis ça s'arrêterait là. Pas forcément qu'il y ait eu des...
Non, mais ce que je veux dire par là, Théa, c'est que qu'Activision ne soit pas satisfait des ventes de Destiny, enfin pour moi, c'est même pas une théorie, c'est une certitude. Enfin, ils l'ont dit. Et d'ailleurs, Bungie s'est empressé dans la foulée de dire qu'eux, ils étaient très contents des ventes. Hein. Donc, voilà. C'est pour vous dire l'ambiance qui règne entre les deux boîtes. Hein. Activision n'était pas content des ventes, c'est une certitude. Par contre, moi, je suis pas certain que c'est Activision, au départ, qui soit responsable du fait que ben, du contenu, il n'y en avait pas beaucoup. J'aurais même tendance à penser que c'est de la faute de Bungie, parce qu'après tout, c'est pas Activision qui développait le jeu, hein, c'est Bungie. Je suis pas sûr que c'est Activision, même si c'était tout à fait pour, qui a eu l'idée de designer le jeu de cette manière, d'un point de vue des microtransactions. Toute la partie « sale » entre guillemets de Destiny, tout le monde part du principe que c'est Activision. Mais moi, j'en suis pas persuadé. Alors, je ne doute pas une seule seconde que Activision était très content de la manière de monétiser le jeu. Parce qu'après tout, c'est ce qu'ils font sur leurs autres jeux. Et voilà, il n'y a pas de raison qu'ils soient aussi à ce genre de deals commerciaux. Mais par contre, absolument rien, moi, ne me dit que Bungie n'est pas à la racine du problème. Parce que tout le monde se dit là que ça y est, Bungie est libre, ça va être la fête, en fait péter le champagne, c'est bon, ils vont être libres d'un point de vue créatif, ils vont faire des trucs super bien, mais si ça se trouve, ils vont faire de la grosse merde, hein, on n'en sait rien. En tout cas, ne vous ruez pas sur Destiny 2.
Ouais. Non, mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce que l'air de rien, avec cette émancipation, Bungie, il se rajoute énormément de travail. À l'époque du deal avec Activision, c'était aussi Activision qui avait la structure de marketing, de promotion autour du jeu.
De QA.
Voilà, des choses comme ça. Il y a des studios qui sont au sein d'Activision qui travaillaient aussi sur Destiny 2. C'est des studios-là qui vont plus travailler avec Bungie dorénavant. Donc, faut faire attention parce que certes, ils s'émancipent et donc ça donne une image assez cool pour eux, mais est-ce que au final ils sont pas en train d'avoir les yeux plus gros que le ventre ? Est-ce qu'ils vont pas avoir besoin d'une autre structure ? Comme le disait ATH, Sony est un bon candidat. Ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre, hein. Ça pourrait être Tencent, comme le disait le tyran.
Voir donc, Nintendo.
Voilà, c'est... Mais bref, ouais, non, c'est intéressant en tout cas, parce que bah ça va nous donner des choses à observer dans les mois, années à venir. Mais c'est pas du tout une donnée que Destiny 2, voire Destiny 3, ça soit un chef-d'œuvre absolu, juste parce que Activision est retiré de l'équation. Hein.
Mais comme disait Dwayne tout à l'heure, il y avait un deal qui était signé pour 4 jeux sur 10 ans. Mais est-ce que sortir 150 DLC, au bout d'un moment, ça comptabilise pas un peu dans le lot pour dire « Ouais, c'est bon, on a fait le travail pour 4 jeux, là.
» Bon, allez, on va passer à la suite. Et Ben, tu vas nous parler d'Amazon.
Ouais, et donc, on vient d'apprendre que Amazon travaillerait sur une plateforme de streaming de jeux vidéo. Donc, on sait que récemment, Google a fait un test avec Assassin's Creed, qui était jouable dans un navigateur. Et donc là on apprend que Amazon est en train de bosser sur un truc un peu similaire, en tout cas sur du streaming, et que ça pourrait arriver dès 2020.
Donc, alors, Ben, je vais pas trahir un secret, hein, tu le sais, c'est un truc auquel je suis assez hostile, personnellement, parce que tu sais aussi bien que moi que d'un point de vue technique, c'est de la pure folie de faire ce genre de truc, surtout à une époque où on nous parle, oui, il faut sauver la planète, machin, mais on fait des fermes de serveurs. Alors certes, les fermes de serveurs, c'est vrai qu'on les voit pas. Hein, effectivement. Sauf que les fermes de serveurs qui vont faire tourner vos jeux en streaming, là, c'est une véritable saloperie d'un point de vue écologique. Hein. Déjà, premier point. Ouais. Et si tout le monde se met à streamer des jeux, sachez que streamer des jeux, c'est pas la même chose que streamer des films. Hein. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de ressources. Premier point. Oui, deuxième point, d'un point de vue de ce qu'on appelle la neutralité du net, moi je peux vous assurer que si ce genre de service commence à se généraliser, je connais deux trois fournisseurs d'accès qui vont commencer à faire du lobbying intensif. Ils le font déjà pour qu'on arrête les conneries et qu'ils vont en profiter pour prioriser certains services sur d'autres. On voit déjà ça sur les films, hein, je vous rappelle. Hein, ouais. Aller sur Twitch à certaines heures, chez certains fournisseurs d'accès, il y a quelques petits soucis.
Hein. Sur Netflix.
Et oui, notamment. Je peux vous assurer que pour le streaming des jeux, ça sera encore pire.
Oui, clairement.
Bon, ça plus le fait que je trouve ce genre de truc, encore une fois, totalement pas raisonnable d'un point de vue technique. Faire ça dans un pays comme les États-Unis, qui est le tiers-monde en matière de connexion Internet, oui, je le dis, c'est pas très raisonnable. ATH ?
Oui, bah les États-Unis, c'est quand même un pays où il y a plus de 300 millions de personnes. Mais imagine maintenant la Chine qui se met à jouer. Voilà, c'est quand même un peuple où ils sont près d'un milliard, 5. On va dire que ne serait-ce qu'une petite partie commencerait à jouer au jeu en streaming, ça fait beaucoup. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. En plus de ça, il faut ajouter le fait que bah ça pose problème sur certains jeux. En général, le streaming, par exemple, les jeux de combat, il y a l'input lag. Et ça, c'est un truc qui n'est pas dérangeant, par exemple, si tu fais un jeu d'aventure, un point and click. Mais pour un jeu où ça demande un timing précis, là, ça peut devenir très très handicapant, voire quasiment injouable pour les gens qui veulent faire du jeu à haut niveau. Mais en plus de ça, c'est surtout la question de l'écologie, moi, qui m'intéresse. Mais la réponse, elle est toute trouvée. Hein. C'est-à-dire, tant qu'on peut faire du pognon, l'écologie, on n'a rien à foutre. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Hein. Tu sais très bien que c'est du foutage de gueule. Malheureusement, quand il y aura du pognon, bah voilà, la planète a peut crever, on n'en a rien à foutre. On va l'épuiser jusqu'à la fin.
Alors après, d'un point de vue plus personnel aussi, ce qui me gêne avec ce genre de système, c'est qu'on va finalement arriver à la situation dont rêvent absolument tous les éditeurs depuis des années, à savoir que nous ne posséderons plus les jeux. C'est encore pire que le jeu en ligne pour moi, ça. C'est-à-dire que le jeu en ligne, il y a toujours moyen, tu sais, de récupérer le code, d'essayer de le bidouiller, machin. Là, le code, bah, tu récupères rien du tout. C'est sur un serveur, tu y touches jamais. Et le jour où l'éditeur décide d'arrêter tel ou tel jeu, de ne plus distribuer tel ou tel jeu, tu ne le trouves plus. Point.
Ouais.
Non, mais il y a aussi un souci de conservation du patrimoine vidéoludique. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il y a des associations comme MO5 qui, justement, militent pour conserver des traces du jeu vidéo. Normalement, il faut savoir que quand un jeu sort en France, il y a une copie qui doit être envoyée à la Bibliothèque nationale. Et alors que c'est quasiment jamais fait, tu vois. Mais moi, ce serait dommage que vraiment, demain, dans le média jeu vidéo, bah, il y a telle ou telle œuvre qu'on pourrait plus retrouver parce que...
C'est devenu un produit périssable, quoi.
C'est ça, voilà. C'est devenu un yaourt. Il y a une date de consommation. C'est un DLC, mais tu vois, c'est pas le contenu à télécharger. Là, c'est la date limite de consommation, en fait.
Et juste pour peut-être rajouter sur ce truc-là où... Parfois, quand on a des débats sur ça, on met en relation, bah, justement, ouais, mais le physique, ça pollue aussi. Il faut savoir que ça pollue beaucoup moins que les fermes de serveurs qu'on ne voit pas. Donc, c'est un peu comme la mondialisation, c'est-à-dire qu'on a toute l'Asie qui travaille pour nous et on ne le voit pas, mais ça reste de l'esclavage moderne, quoi.
C'est un podcast politique ce soir.
Oui, bon, c'est pas comme si c'était la première fois hein, qu'on avait certains sujets.
Toi, tu veux dire que Game Info est engagé?
Non, mais on dit ce qu'on pense et dire ce qu'on pense en général, ça amène à faire de la politique. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, messieurs, nous allons maintenant parler d'Assassin's Creed Odyssey, mon cher Ben, qui a décidé de proposer de nouvelles options, n'est-ce pas, à ses joueurs, notamment une qui, je crois, va nous intéresser, Mandrin et moi.
Voilà, donc c'est à travers un patch assez important qu'ils ont glissé une petite nouvelle option qui s'appelle le Level Scaling Option. Et donc, il va permettre de personnaliser le niveau, en gros, de ses ennemis et des quêtes. Donc, il y a 4 niveaux. Donc, il y a le niveau par défaut, il y a le niveau Eevee, il y a le niveau Medium et le niveau Light. Pour le Medium, on va être deux niveaux en dessous du niveau du joueur. Le light, c'est quatre niveaux en dessous. Et le heavy, donc c'est le même. Et le default, je ne sais pas.
Bah, en fait, c'est le niveau de réglage avec lequel nous on a joué.
C'est le mode actuel, d'accord.
C'est ça. C'est-à-dire que dans le jeu, par défaut, le niveau des adversaires peut avoir des petites variations.
Ouais.
Alors que le mode heavy que tu viens de décrire, justement, là, de ce que j'ai compris, ce sera toujours le même. Voilà.
À savoir que c'est jusqu'à 2 ou 4 niveaux en dessous de celui du joueur. Donc, suivant la situation et typiquement si les développeurs ont choisi que bah tel mob il fallait qu'il soit à tel niveau, bah il le restera parce que ils ont envie que ça le reste pour X raisons. Mais sinon, voilà, c'est un point qu'on avait soulevé au moment du test, je m'en souviens. Il y a des moments ça n'a pas de sens si tu veux de toujours avoir des mobs. Typiquement, si tu reviens sur la zone du début, d'avoir des mobs qui sont au même niveau que toi, ça n'a pas de sens, tu vois.
Par exemple, Ben, je sais pas si t'as joué au Elder Scrolls récent, c'est un peu le même délire, quoi. C'est-à-dire que c'est le level scaling un peu débile, quoi.
En fait, tout le monde évolue en même temps que le joueur, c'est-à-dire que voilà. Au début, tu commences dans la zone, t'es niveau 2, les mecs sont niveau 2, après toi, tu prends l'expérience, mais t'as beau te barrer et revenir au niveau maximum, bah les mecs, ils auront fait de la muscu entre-temps, ils seront au même niveau que toi, tu vois.
Ouais, c'est pas des zones, s'ils évoluent comme toi.
Exactement. C'était fait pour contrôler la difficulté et du coup, bah, la progression du joueur, qui permettait pas forcément d'aller à peu près partout. Alors là, pour le coup, ça va pas changer, hein, le fait qu'il y ait certaines zones qui seront pas accessibles du tout, hein, à des petits niveaux. Enfin, vous pouvez y aller, mais clairement, s'il y a quelqu'un qui a décidé de vous péter la gueule, il va vous péter la gueule. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que, à la longue, moi, j'avais trouvé que le level scaling était un peu débile. Et
pourquoi je n'aime pas ce genre de système en général, et pourquoi je préfère un système à la Dark Souls que je trouve infiniment plus intelligent, le level scaling, je trouve que c'est anti-immersif. T'as pas de sensation de progression. T'as l'impression d'avoir un personnage. Alors t'as beau devenir plus fort en fait, mais ça n'a pas d'impact. Les autres ils sont aussi forts que toi de toute façon, donc à quoi bon ? Alors qu'un système à la Dark Souls par exemple, où t'as certes une progression en niveau, mais les ennemis continuent malgré tout de te piquer un peu. Mais c'est pas à cause du niveau qui pique, c'est juste que il faut être prudent, etc. Mais quand tu tapes fort quoi. Alors certes, si tu fais le con, tu te fais éclater la gueule, mais tu tapes fort quand même. Alors que le système de level scaling à la Assassin's Creed, bah tu te retrouves dans des situations débiles où t'arrives pas à tuer un mec endormi parce que il est au même niveau que toi. Ou enfin, moi je trouve ce genre de système vraiment pas top d'un point de vue immersion et sensation de progression de jeu. ATH.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, bon, en plus, ça, tu as cité Dark Souls pour 2019. Il fallait bien le nommer au moins une fois pour le commencer l'année.
La civilisation d'Assassin's Creed.
Mais, pour ne pas citer que Dark Souls, mais même les RPG à l'ancienne, t'avais des zones avec des niveaux. Et, moi, je trouvais ça plus cohérent et beaucoup plus, gratifiant pour le joueur parce que tu sentais vraiment l'évolution de ton personnage quand tu revenais dans des anciennes zones. Et puis là, tu sais, t'as le côté un petit peu débile où, au début du jeu, en général, tu vas affronter des rats de merde dans des égouts. C'est les quêtes de base des RPG. Tu galères un petit peu contre lui au début parce que ouais, t'es un pauvre plouc. Mais à la fin du jeu, normalement, t'es censé le défoncer. Or, avec ce système-là, bah, le rat, il est au même niveau que toi. Donc du coup, c'est comme si depuis le début, t'avais pas évolué, mis à part que t'es un peu plus bling-bling niveau vestimentaire. Mais en fait, ça change pas réellement grand-chose, quoi.
C'est clairement une mécanique qui a été pensée pour que tu perdes ton temps et que tu restes plus longtemps sur le jeu.
C'est
enfin,
ça.
On va pas se mentir, on en a parlé pendant le test. C'est un jeu à service qui est pensé comme tel et c'est pour ça qu'en fait les mobs ils prennent ton level. Et même là, je trouve que bon, je suppose que en niveau light, tu vas vraiment sentir la différence. Après en mode medium, je suis même pas certain très honnêtement. Mais en tout cas, moi c'est vrai que j'avais laissé tomber le jeu aux alentours de 25 heures de jeu. Ça me donne presque envie d'aller retester pour voir si bah du coup c'est un peu plus agréable à
et
à
moi
naviguer.
Si tu sais pourquoi, parce que comme je vous le disais dans le dernier épisode, j'ai fait tester mon papa Origins et j'ai pu jouer aussi moi de mon côté du coup un peu à Origins. Et Origins, vous le savez, il n'a pas un système de level scrolling aussi débile.
Ouais.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vachement plus jouissif.
Ah ouais,
quand t'arrives dans une zone que tu leur éclates la gueule, mais c'est vachement marrant en fait comme jeu. finalement, tu vois, le mode de difficulté hard, je crois que je le virerai. Parce que, enfin, c'est pas Dark Souls quoi, si tu veux. Je trouve le système de jeu, certes, il est sympa, mais il n'a pas la profondeur qui me donnerait envie de me faire chier avec un level scrolling aussi débile quoi en fait. Ça n'a pas d'intérêt.
Petite précision sur la façon de modifier le level scaling ou pas. Quand vous êtes sur des modes de difficulté, on va dire standard, vous pouvez changer le mode de level scaling à tout moment. sauf quand vous êtes en mode de difficulté Nightmare, enfin le truc le plus haut, quoi, tu pourras pas y toucher.
Ok. Bon. Dwayne ?
Oui.
Nous allons parler maintenant d'un jeu qui t'a fortement marqué, mais on va en discuter parce que moi c'est un peu moins le cas, mais il va y avoir un débat, n'est-ce pas ? Il va y avoir du clash, bagarre, bagarre.
Ça tourne mal.
Buzz, clash, voilà. Game info.
On va parler d'un jeu avec un titre, ma foi, fort succinct, et ce jeu c'est Gris.
Un titre de Nomada Studio, qui est un studio barcelonais. C'est leur tout premier jeu. Donc après, enfin voilà, c'est une petite équipe, parcours classique, hein, gros studio. J'ai envie de m'émanciper. Donc là, tout premier jeu, Gris, donc qui est un platformer puzzle game assez artistique, donc avec un style un peu aquarelle, on va dire, qui ressemble à Child of Light un peu. Dans l'esprit. Voilà, donc on démarre, après on va pas trop raconter vu que c'est un jeu qui est assez court. Donc vas-y.
Non seulement c'est un jeu qui est assez court, mais en plus c'est un jeu, si tu veux, ou si t'en dis trop, franchement je vois pas l'intérêt
d'y
jouer. Enfin, très clairement, ça c'est un jeu qu'il ne faut surtout pas aller voir en streaming, je vous le dis tout de suite. Ne vous gâchez pas le jeu en allant regarder des vidéos super longues, ou parce que le jeu, comme tu l'as dit, Dwayne, enfin, ça se termine en quoi, 4-5 heures.
Ouais, c'est ça. Je l'ai commencé à minuit, donc.
Moi, je l'ai fait dans le train en allant chez mes parents, c'est pour vous dire.
Voilà, on va pas trop en raconter. En tout cas, on démarre avec une jeune fille qui a perdu sa voix. On va démarrer dans cet univers qui a perdu également ses couleurs.
Qui est très clairement dévastée, il n'y a aucune vie, enfin, elle est toute seule dans cet univers. Et son but, à elle, finalement, ça va être de retrouver sa voix, évidemment, mais en ce faisant, elle va retrouver aussi une chose, c'est des couleurs qui vont, finalement, au fur et à mesure de l'aventure, ramener la vie dans cet univers-là. Vous l'aurez deviné, évidemment, en retrouvant toutes ces couleurs, ce genre de choses, elle va débloquer des nouveaux pans du gameplay, tout simplement. Et c'est là où je trouve que le jeu est finalement assez bien conçu. Je sais pas ce que t'en penses, Wayne, c'est-à-dire que c'est un jeu qui finalement a une narration qui est cohérente avec son gameplay. Chaque nouveau pan de la narration ajoute un nouveau pan du gameplay qui lui-même est cohérent avec ce que le jeu cherche à raconter et à te faire visiter.
Voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans Gris, c'est effectivement ce gameplay qui est assez simple. Les puzzles également, vous allez pas vous prendre la tête sur le jeu, clairement pas. Après, même si ça reste simple, je trouve ça quand même bien dosé. Voilà, c'est ce qui m'a plu. Donc c'est toujours logique, c'est extrêmement bien dosé, en tout cas moi j'ai trouvé. Derrière ça, il y a toujours cette récompense après pour quelqu'un. Enfin, moi je suis vraiment un gros fan d'animation 2D. Donc derrière ça, enfin, t'as toujours des récompenses visuelles lorsque t'avances à travers le jeu.
Et en cela, il me fait beaucoup penser à Journey, par exemple, qui clairement est un jeu qui mise énormément, tu sais, sur l'aspect regarde mon univers, comment il est beau, il est magnifique. Enfin, c'est un jeu qui se montre, et surtout moi, c'est un jeu qui me fait du bien parce que putain, qu'est-ce que j'en peux plus du pixel art, quoi. Et non, parce que ça, je tiens à le dire vraiment, moi, je tiens à féliciter ce studio pour le taf fait sur la direction artistique et surtout le rendu du jeu. Gris, c'est un des rares jeux en 2D dont je peux dire putain, c'est un jeu de 2019, quoi, mec. C'est un jeu qui ressemble à un jeu aujourd'hui et pas un jeu il y a 20 ans, quoi. Merci, merci, putain, merci beaucoup.
Ouais, par contre, ton point de vue m'intéresse parce que, du coup, moi, j'explique un peu comment j'ai appréhendé le truc. Donc, comme j'ai dit, J'ai commencé à minuit, j'ai terminé à 4 heures. Donc clairement, enfin moi, c'est un jeu qui m'a marqué par rapport au message. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que tout est en subtilité et il n'y a rien de clair, en fait. Enfin, tu le comprends, mais il n'y a rien qui est dit mot pour mot. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de dialogue. Donc après...
Bon, oui, il y a certains trucs qui sont quand même assez évidents.
Il
hein,
y a certains trucs, voilà, évidents. On va pas trop en dévoiler. Et en fait, un peu de manière viscérale, moi, quand j'ai terminé l'expérience, donc ouais, vers 4 heures du matin, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, quoi. Mais parce que ça m'a touché vraiment... personnellement, et le fait qu'il y ait justement ces deux facettes, bah, des gens qui, comme toi, voilà, l'ont trouvé bien, je sais que j'ai vu des gens qui ont détesté ça, c'est vraiment pour moi, le signe d'un grand jeu.
Alors, moi, par contre, je suis pas du tout dans ton cas, c'est-à-dire toute la partie message, moi, elle m'est passée complètement au-dessus de la tête. Bon, déjà, parce qu'il y a un thème central qui est vraiment, mais qui est d'une évidence, tu comprends assez vite ce dont il est question. Le fait que ce thème central, si tu veux, soit distillé, enfin, pour le coup, j'ai trouvé qu'il était fait de manière grossière. J'étais pas du tout dedans. Je trouvais ça magnifique, je passais un très bon moment, c'était agréable. Mais alors, le côté émotion, moi, zéro, quoi. Enfin, il s'est rien passé du tout. J'ai pas ressenti ce que j'ai pu ressentir sur un journée, par exemple. J'ai terminé ça, j'ai fait, oh, ouais, c'était joli, c'était cool, c'était sympa. Mais, je trouve que ce dont il parle est tellement évident et que, alors peut-être qu'il y a des choses que je suis passé à côté, je sais pas, mais pour moi, il y a clairement un sujet central qui, surtout de la manière dont il est décomposé en actes, tu comprends assez vite que, ah oui, on parle de ça, d'accord, ok, bon, voilà, ok. La messe est dite, quoi.
Ouais, mais voilà, mais c'est super intéressant qu'on ait pas le même avis, parce que c'est vraiment ça, c'est que toi, en fait, tu l'as pris d'une certaine façon. Et moi, ça m'a touché différemment. Après, même si on a évidemment compris le thème central, hein, c'est pas non plus hyper subtil. Mais derrière ça, justement, c'est la façon dont ils nous ont touchés différemment. C'est-à-dire que toi, c'est « Ah ouais, c'est le thème central, c'est classique, c'est pas que t'as pas aimé. » Voilà, t'as dit « C'est un jeu sympa. »
Bah, etc. Disons qu'en fait, si tu veux, j'ai quand même besoin d'un minimum de... Comment dire ? D'attachement au personnage pour pouvoir ressentir quelque chose. Et le problème que j'ai avec Gris, c'est que le personnage, mais je m'en fous royalement, quoi. Enfin, c'est un avatar que je contrôle. Je ne connais rien de sa vie et le jeu ne fait absolument rien pour te dire qui c'est, en fait, ce personnage. Ouais. Tu comprends que c'est un personnage qui a vécu quelque chose, mais moi, je sais pas qui c'est, donc je m'en fous. Et pourquoi, finalement, je pense qu'un Journey m'a plus marqué que ce jeu-là, par exemple? Parce que dans Journey, il y a l'interaction avec l'autre joueur. Le jeu a réussi à me faire passer des émotions sur ce qui était en train de se passer, en fait. Et pas sur le message qu'il essaye de me communiquer. Je sais pas si je me fais bien comprendre,
mais c'est pas du tout un
jeu qui essaie de te parler d'un thème précis. C'est ce qui te fait vivre qui est important. Alors que Gris, je trouve que c'est un jeu qui te déroule son thème au fur et à mesure. Mais sauf que moi, en fait, pour que ça me touche, j'ai besoin de savoir c'est qui ce personnage, qu'est-ce qu'il a vécu, même tu sais, en racontant par exemple dans les décors ou ce genre de choses, finalement, c'est un personnage qui pourrait être vous et moi, en fait. Ça pourrait parler de vous et moi, ce jeu, si tu veux, et de ce qui se passe dans notre psyché, on va dire, à certains moments de la vie. Et ça, moi, mais rien à foutre.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, pour moi, justement, pourquoi je suis pas dans le même cas que toi? Toi, il faut que le personnage te parle. Mais moi, c'est plus son évolution que j'ai pris plus personnellement que comme l'histoire de cette jeune fille, quoi.
C'est vrai que ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que l'état émotionnel du personnage se reflète dans le gameplay et dans l'évolution de celui-ci. Et du coup, il y a un véritable accompagnement dans le déroulement. Et si on se laisse prendre par ça, je pense qu'effectivement, ça peut être une expérience très très intéressante. Mais moi, si tu veux, ça c'est mon côté joueur de Metroidvania, on va dire. Moi, je vois la mécanique. Limite, ce jeu, en plus, j'étais en mode analytique, tu vois. Je fais, ah oui, d'accord, donc ils font passer ça comme d'accord, c'est intelligent. Mais par contre, tu vois, c'est un jeu dont je dirais que je trouve très intelligent. C'est un jeu qui est malin pour moi, qui fait des choses bien. Mais par contre, j'ai pas du tout cet attachement, du coup, que toi, tu peux avoir avec le jeu.
Ouais, bien sûr. En tout cas, qu'on ait pleuré ou pas à la fin, pour un premier jeu Nomada Studio, chapeau déjà. Et puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont fournir ensuite, quoi.
ATH.
Vu que le jeu s'appelle Gris, est-ce qu'il concerne une partie de l'Angleterre et le nord de la France ou pas?
Oh là 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 là.
Bon. La question sérieuse.
Tu sors à DH.
La question sérieuse, c'est, tu as mis en parallèle ce jeu avec Journey. Journey, c'était un jeu qui faisait passer ses émotions, notamment par sa musique. Là, je voulais savoir si Gris proposait quelque chose de musicalement, on va dire, d'agréable, ou bien c'est quelque chose d'assez quelconque.
J'ai pas trouvé ça exceptionnel.
Mais je dirais pas pour autant que sa bande son n'est pas réussie, parce que je trouve que c'est un peu la méthode Olivier Berruvier, si vous connaissez, c'est-à-dire que c'est une bande son qui fait son travail d'accompagnement, mais qui ne s'impose pas au jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça veut dire que pour moi, elle fait ce pourquoi elle a été faite, elle le fait bien.
Donc ouais, ça reste très très propre, et moi je l'ai pas retenu particulièrement, mais ça fait très bien le café, quoi.
Alors, sachant que dans la bande-son, moi, j'inclus tout. Hein. Certes, les musiques, évidemment, mais aussi tout ce qui est bruitage, etc. Et là, le jeu, pour moi, il est mais absolument irréprochable de ce point de vue-là. Et voilà. Donc, honnêtement, Gris, si les expériences arty, contemplatives, ça vous casse les bonbons, ça pourrait peut-être vous plaire. Ça pourrait, je dis bien, parce que je trouve qu'il propose des choses intéressantes d'un point de vue gameplay. Seulement, ça ne vous plaira que si vous ne vous attendez pas à un jeu avec du challenge. C'est pas du tout le sujet.
Clairement pas, ouais.
Mais par contre, d'un point de vue mécanique, c'est quelque chose, moi, que j'ai trouvé intéressant. Tu vois, c'est pas un... Non, je vais pas me montrer insultant. Faut pas être comme ça en début d'année, comme ça. Faut prendre les bonnes résolutions. Comment il s'appelle le jeu, là, où tu contrôles des pétales cette
PlayStation 3.
Ah, oh, mon dieu, ah oui, cette horreur là. Tout le monde m'avait dit à l'époque, oh, tu vas voir, c'est génial, tu vas passer un super bon moment. Putain, qu'est-ce que je me suis fait chier, quoi, putain. Il se passe rien dans le jeu, c'est une horreur, quoi. Alors que là, Gris, moi qui suis un amateur de jeux mécaniques, et qui, a priori, n'est pas forcément réceptif aux expériences narratives, bah, j'y ai passé un excellent moment. Pourquoi? Parce que, ben, je le redis, c'est un jeu qui exploite bien ses mécaniques pour faire passer des choses, etc. Et même un gars comme moi qui n'est pas forcément versé dans les jeux contemplatifs, machin, ben là, j'ai vraiment passé un super moment, quoi. Parce que c'est un jeu qui fait bien les choses d'un point de vue mécanique.
Et justement, j'ai une question par rapport au gameplay du jeu. C'est un jeu, voilà, qui... un parti pris artistique assez fort, mais comme tu le dis, c'est pas un jeu qui demande un certain skill manette en main. Donc voilà, vous attendez pas un Super Meat Boy en gros, mais par contre, la demande de skill, est-ce qu'elle est remplacée par une réflexion de la part du joueur ou pas?
Mais en fait, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a cette réflexion, mais qui est jamais très poussée, c'est-à-dire tu vas pas rester à réfléchir sur le puzzle, mais en même temps, ça serait contre le propos, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est un jeu, en même temps, qui veut faire en sorte que le joueur ne perde pas son attention du monde qu'il propose, tu veux. C'est les mécaniques sont au service de l'émerveillement que tu vas ressentir en progressant dans l'univers en question. C'est des puzzles qui sont là pour accompagner la découverte du jeu et qui sont pas là pour la freiner en te disant « Ah non, 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 attention, là, je me suis fait chier à designer un puzzle, s'il te plaît, tu vas le résoudre, hein, déjà. Puis mon jeu, là, il doit faire 10 heures, donc t'es gentil, hein, donc je vais te mettre un puzzle bien chiant. » Mais par contre, ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des puzzles sans intérêt, qui sont simplistes. Je pense notamment sur l'un des derniers puzzles qui joue pas mal sur la gravité, on va dire, que moi, j'ai trouvé, mais alors super malin, et surtout
alors que
hyper
ça reste
inventif
simple,
d'un point de vue level design, tu vois. Enfin, le level design qu'ils ont mis en place derrière pour faire ce truc-là, moi, je trouve absolument génial.
En fait, à aucun moment, la progression du jeu ne va être freinée par Staples, mais c'est vraiment, on va dire, quelque chose qui accompagne le voyage, plus qu'une mécanique de gameplay qui
c'est
va être...
C'est intuitif et c'est agréable.
Exactement.
Rien à ajouter ?
Ben non, je crois qu'on a fait le tour.
Bon, allez, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Salut.
Salut.
Ciao et merci pour ce test de Gris.